Vous écoutez France Culture.
François Sureau.
Oui. Ce qui est frappant, c'est que l'histoire que vous racontez, en fait, je crois qu'on en a chacun d'entre nous, surtout ceux qui agissent dans des métiers où ils ont des décisions à prendre, en nom de cette nature. Il faut s'interroger quand même une minute sur la notion de faute. C'est-à-dire que le sujet du livre n'est pas le cas où quelqu'un, par entraînement ou passion coupable, ferait le mal. Vous voyez, c'est pas ça. Ça n'est pas non plus le cas de quelqu'un qui dirait entre deux mots je vais choisir le moindre et se tromperait dans l'appréciation des conséquences. Ça n'est pas non plus entièrement ça. Un peu plus déjà, mais en réalité, c'est quelqu'un qui essaye de remplir honnêtement l'office de juge qui lui a été confié, et cet office de juge suppose de tenir compte du droit applicable, des principes, de la jurisprudence et du contexte. Et en fonction de tout ça, il n'y a aucun doute. Giscard avait eu raison de retirer le statut aux réfugiés basques espagnols vivant en France, et la commission des réfugiés a eu raison de confirmer le retrait auquel Giscard s'est livré. Maintenant, le sujet du livre commence une fois que tout ça a eu lieu. Une fois que tout ça a eu lieu, on se rend compte qu'il existe des destinées humaines qui se développent à côté du droit, malgré le droit, en dehors du droit, et que chacun est amené à en porter les conséquences. Et au fond, ce livre vise aussi à relativiser l'obsession du droit, qui est celle des sociétés contemporaines, et qui les prive à peu près de tout discernement. Il vaut mieux qu'il y ait du droit que pas de droit. Il vaut mieux que les juges qu'ils fassent appliquer essayent de le faire appliquer en conscience. Une fois qu'ils l'ont fait, il subsiste néanmoins une part de mal, au sens profond du terme.
Avec un M majuscule.
Avec un M majuscule, qui est tout à fait irréductible et qui est le propre de notre condition et avec laquelle on ne peut pas en finir aussi facilement.
Et pardonnez la naïveté de ma question, François Sureau. Évidemment, quand on entend parler du droit, du jugement, et de personnes compétentes, formées, comme vous l'êtes, comme ce fameux président de la commission, M. Dreyfus, qui est avec vous, on se dit que le droit, très naïvement peut-être, est égal à la justice. Or, ça n'est pas le cas.
Non, ça n'est pas
le droit ne fait pas justice.
Non, le droit ne fait pas justice. Il est pas là pour ça. Je suis pas non plus un philosophe du droit. J'ai des gens plus compétents que moi qui pourraient en parler. J'ai plutôt été un praticien en ce domaine. Ce que le droit vise à faire très profondément, c'est d'une certaine manière, j'emploie un mot un peu daté, mais le droit il vise à maintenir l'ordre public, c'est-à-dire à réaliser ce compromis tout à fait étrange entre les demandes individuelles, l'intérêt général, les nécessités du bien commun, tout ça s'incarnant dans des normes qui sont quelquefois contradictoires entre elles. Et en fait, la fonction essentielle du droit, c'est d'éviter l'arbitraire de l'État, qui renverrait M. Ibarategui chez lui sans lui donner l'occasion de s'expliquer devant un juge, ou l'arbitraire des personnes privées, par exemple les victimes qui décideraient de se faire justice elles-mêmes. Le droit, il sert uniquement à ça. Il sert à éviter un mal social pire. Mais c'est tout. Et donc,
parce que quand même, quand cet homme, il vous le dit plusieurs fois, il vous dit, si vraiment, je vous assure, si vous me renvoyez serai assassiné.
Alors, c'est très intéressant parce que, au fond, si on l'a pas pris au sérieux, là, c'est parce qu'on s'est montré insuffisamment juridique. Il n'a pas été expulsé vers l'Espagne.
Non.
Il aurait pu continuer de vivre ici. Il aurait pu aller vivre en Bolivie. Il aurait pu aller au Guatemala. Enfin, il aurait pu aller dans toutes sortes de pays hispanophones où il n'aurait jamais eu de problème. En réalité, on savait bien que même s'il avait continué de vivre en France sans papier, mais personne ne lui aurait jamais posé de questions. Ce n'était pas en plus à une époque où on faisait la traque des sans-papiers comme maintenant. Il aurait continué de vivre dans le Finistère. Non, simplement, on a eu affaire à quelqu'un qui prenait très au sérieux sa condition de sujet de droit. C'est-à-dire, et un sujet de droit, c'est quelqu'un qui ne vit pas dans le pays qui l'a accueilli sans titre. Et donc, vous ne voulez pas de moi, je retourne dans mon pays d'origine. Et curieusement, et paradoxalement, c'est le fait qu'il prenait très au sérieux sa condition de sujet de droit qui a fait capoter l'ensemble de la machine, montrant ainsi l'inanité du système judiciaire dans son ensemble, qui le plus souvent fonctionne aussi avec une espèce de mollesse et d'approximation. Quand le juge de la Cour nationale du droit d'asile refuse la demande de statut de réfugié d'un réfugié, Il est rarissime que le demandeur soit mis dans un avion et renvoyé dans le pays d'origine. En réalité, on le laisse se perdre simplement ici, où il forme une masse de gens qui seront peut-être régularisés. On les oublie. Et puis 5 ans, 10 ans après, ayant 50 bulletins de travail au noir et ayant payé quelques impôts, ils seront régularisés. Enfin, c'est ça qui se passe. Et là, le système a dérapé parce que son principal intéressé a pris incroyablement au sérieux sa propre condition de sujet de droit, ce qui n'arrive pratiquement jamais. Et ça, si vous voulez, comment dire ça, c'est Olivier Clément que j'aimais beaucoup, le théologien orthodoxe, qui disait, il parlait de ça, il parlait de la justice, et il disait au fond, dans un de ses derniers livres, au fond, il vaut mieux qu'elle soit rendue, mais à la fin, il faut absolument la négliger. Et ce que vous disiez sur le jansénisme est très juste. Dans l'entretien avec M. de Sacy, on dit on lui donnerait 2 maîtres, l'un pour lui apprendre les sciences, l'autre pour lui apprendre à les mépriser. Et c'est exactement la même chose. Le droit, certainement, il faut en faire. Au-delà, il faut certainement l'oublier.
Et là, vous auriez dû l'oublier, la commission avec
les... Quand je dis dans ce livre que je me suis posé cette question tous les jours, c'est parfaitement exact.
Ah oui, je rappelle ce que disait Brice, hein, la page 54, le souvenir d'Ibaretegui ne m'a jamais laissé en repos.
Et je ne dis pas, encore maintenant, encore ce matin, que j'aurais pris une décision différente. Et le sujet du livre...
Le droit, vous y... Le sujet... Le problème, c'est que vous avez une faute légale et vous avez une faute morale. Et que notre époque reconnaît l'existence de la faute légale et de moins en moins l'existence de la faute morale. Est-ce que ça témoigne pas aussi d'une invasion du droit dans nos sociétés, en particulier européennes? Je pense à cette remarquable interview de Marcel Gauchet qui vient de paraître.
Remarquable. Sur le gloubi-boulga juridico-économique, très très bonne interview.
Formidable interview où il dit effectivement que l'Europe se caractérise par la montée en puissance de deux domaines, le marché, l'économie, et puis le droit, que l'Europe se veut en pilotage automatique et qu'il n'y a plus de volonté politique. C'est une des raisons pour lesquelles on a progressivement liquidé les États-nations. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment dans notre Europe, et seulement dans notre Europe, parce que la notion de faute morale, elle existe dans le reste du monde, mais en Europe, il n'y a plus que le droit et le marché. C'est les deux seules sanctions.
François Sureau.
Ça nous emmènerait assez loin, mais ce que je ressens comme ça instinctivement, et c'est amusant que vous ayez parlé d'Ignace de Loyola à propos de ça. Ce que je ressens instinctivement, c'est la disparition, et croyez bien que mon propos n'est pas un propos de spiritualiste maboule, c'est la disparition en Europe des problématiques du salut. C'est-à-dire le salut collectif, qui a eu d'abord une dimension religieuse et qui ensuite est devenu un salut politique, même par la Révolution, par l'acquisition des droits, etc., ou le salut individuel réalisé au travers de la technique de l'examen de conscience aboutissant à la fin de la vie, pour ceux qui ne croient pas qu'il y a un au-delà, ou après la vie, pour ceux qui pensent qu'il y a un jugement, à un véritable jugement porté par soi-même sur la dignité de sa propre existence. Ce qui me frappe à l'heure actuelle, c'est que ces problématiques du salut ont entièrement disparu, remplacées qu'elles sont par des problématiques économiques d'un côté, et d'autre part, en droit, simplement par la problématique d'une espèce d'arrangement social où toute une sorte de catégorie essaierait de s'acquérir des droits de créance sur la société ou de négocier les droits de créance qu'ils ont entre eux. Et c'est cette disparition des problématiques du salut qui m'a... Si vous voulez, c'est pas totalement... Alors, si je reviens maintenant à un truc plus religieux, puisque vous évoquiez Ignace...
Qui était le sujet de votre avant-dernier livre, Inigo.
C'est pas totalement par hasard que, quand on lit les évangiles, il n'y a que deux catégories de personnes qui n'y trouvent pas... qui y sont violemment critiquées. Enfin, trois. Les prêtres, les politiques, c'est la tentation, je te donnerai les royaumes du monde, etc. Et les juges. Dépêche-toi de t'arranger avec ton frère sans ça, de crainte que le garde ne te donne au juge et que le juge ne te jette en prison. C'est-à-dire la méfiance à l'égard de la justice, comme la méfiance à l'égard du prêtre, le lévite et le samaritain, comme la méfiance à l'égard du politique, sont le triptyque sur lequel notre civilisation a été construite pendant très très longtemps. Vous observerez qu'au contraire, d'ailleurs, le même texte ne méprise pas les militaires, puisque le centurion est plutôt valorisé, puisque Pierre emporte une épée, mais qu'on lui dit « tu peux la ranger », etc. Ça n'est pas totalement par hasard, parce qu'en réalité, on se rend compte que, d'une certaine manière, ce sont les trois catégories qui mettent en œuvre des valeurs transcendantes, les religieux, les politiques... les religieux, les politiques et les juges, qui mettent en œuvre des valeurs transcendantes qui ont largement pour fonction de nous dispenser de notre salut individuel. Et au fond, Et au fond, c'est le sujet de ce livre.
Ouais. Vous avez dit à Lacroix il y a un an ou deux, la seule problématique qui vaille est celle du salut. Elle évite de traverser la vie en touriste. Est-ce que c'est après cette affaire-là que vous avez décidé de vivre cette seconde vie de quelqu'un engagé auprès, donc, je le disais, des réfugiés? Vous êtes conseiller d'État, avocat d'affaires, vous brassez des millions. Et par ailleurs, dans une autre vie, vous vous occupez de pauvres gars qui demandent l'asile et vous vous en occupez de façon
alors, je avec votre femme. Alors, je tiens à dire quand même. Non, mais c'est pas. J'étais ravi de brasser des millions, mais je brasse plus des masses parce que depuis quelques temps.
Oui, vous avez fait faillite à plusieurs entreprises déjà. Donc
oui, bien sûr, mais ça, c'est autre chose. Non, je suis devenu avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, ce qui fait que j'ai cessé tout à fait d'être avocat d'affaires, précisément pour m'intéresser un peu davantage à la norme, qui me paraît quelque chose d'absolument passionnant, qui se développe en France, à partir de la
CEDH, Clavert,
des questions prioritaires de constitutionnalité, etc.
L'association Pierre Clavert, elle vient de là
Non, alors l'association Pierre Clavert, je vais faire, après avoir joué Ignace, je vais jouer l'inspecteur Colombo. L'association Pierre Clavert, en fait, c'est ma femme qui en a eu l'idée, et c'est elle qui l'a lancée, et en fait, je l'ai suivie dans cette aventure, peut-être à cause de cette histoire, quand elle m'a dit si tu veux t'occuper des questions juridiques que posent les réfugiés, si tu veux, tu peux t'en occuper. Et en fait, je l'ai suivi pour monter le réseau d'avocats de l'association Pierre Clavert, une fois après qu'elle a eu décidé de lancer l'association elle-même. Et peut-être effectivement en souvenir de ce Basque dont j'ai fait un seul personnage dans le livre, mais qui était trois dans la réalité.
Il n'est pas loin de cette association Pierre Clavert, au fond, Ibarretegui.
Non, une sorte de protecteur invisible, du moins je le souhaite.
On parlait éventuellement aussi d'un titre qui aurait pu être, non pas le chemin des morts, mais le chemin des remords. Est-ce qu'il s'agit de remords ou est-ce qu'il s'agit...
Le remords est une seconde faute.
Ouais, c'est ça. Il s'agit de salut, donc, plutôt. Écoutez, Popal, réfugié afghan arrivé en France, dont vous êtes occupé à l'association Pierre Clavert, il est au micro de Tanguy Blum. Il travaille aujourd'hui pour France Terre d'Asile, qu'il a été également dans ses démarches. Il a appris le français en 3 ans, donc grâce à cette école, et qui propose des cours aux demandeurs d'asile. Popal revient sur son parcours et sur les démarches qu'il a dû accomplir. Il est au micro de Tanguy Blum.
Au début, quand je suis arrivé, moi je pense que j'étais pendant... un mois, j'étais un peu dehors. Après, la France Terre d'Asile qui m'a donné un hébergement. Et sinon, ça marche comme ça. Mais en ce moment-là, il y a beaucoup de demandeurs d'asile qui dorment dans la rue. Pendant un an ou 6 mois, mais ils n'ont pas d'hébergement. Parce qu'il y a beaucoup de demandeurs d'asile. C'est normal quand on est demandeur d'asile. Quand tu quittes un pays, quand tu n'as pas de choix. Alors, les démarches en France, en tout cas, c'est pas facile. Tu écris ton récit, normalement c'est l'OFRA qui va décider, qui va donner un statut de réfugié ou pas. Alors quand on est demandeur d'asile, on a une carte de 10 ans et voilà, on a le même droit que tout le monde. Pour moi, l'Europe était tous pareil, la même loi, la même règle. Moi je me suis dit, écoute, je suis resté ici et là je suis très content, j'ai bien choisi.
Et pourquoi vous êtes dit la France plus qu'un autre pays, par hasard comme ça?
Je pense que c'était par hasard. Quand nous on dit c'est le destin, peut-être que c'est mon destin qui m'a ramené ici.
Voilà, Popal que vous devez identifier, j'imagine.
Ah ouais, je l'identifie très bien et je suis très ému de l'entendre. Vous savez, Popal c'est un cas absolument, d'abord c'est une personnalité absolument extraordinaire. C'est assez fascinant parce que voilà un garçon qui a connu d'ailleurs un parcours
en Afghanistan. Il est afghan, je ne sais plus si c'est lui.
Il a connu une histoire assez tragique en Afghanistan. Il est venu en France. Le parcours a été tout aussi tragique comme la plupart des parcours de réfugiés. Il est venu en France. Il a obtenu le statut de réfugié. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est un garçon qui pourrait extrêmement bien réussir dans tous les domaines de la vie civile, en particulier commercial. C'est un type très très habile. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis au service des autres. Ça n'est pas si fréquent, curieusement, ça. Les gens qui arrivent, assez souvent, ils veulent tout oublier de tout ça et essayer de commencer une vie nouvelle, ce que je comprends très bien. Popal, il est à mi-temps à France Terre d'Asile et il travaille à mi-temps avec moi comme interprète pour les dossiers de réfugiés. Et c'est une personnalité tout à fait exceptionnelle.
Alors, comme interprète, d'un mot, vous m'avez un jour raconté des histoires hallucinantes de forces. Par exemple, je crois, un Afghan, genre que vous défendez, à qui on demande si tout de même il n'est pas au fond un peu taliban, et qui répond « Oui, monsieur, je suis taliban ».
Oui, l'interprète est très, très important dans la défense, parce que, si vous voulez, ils viennent d'univers culturel où, moi, au début, quand j'ai commencé, j'étais tout à fait étonné. C'est-à-dire, les gens qui ne vous regardent pas dans les yeux, en Europe, on a tendance à considérer qu'ils racontent des carabistouilles. En réalité, en Afghanistan, on regarde pas dans les yeux quelqu'un de mon âge, quoi. Au bout d'un moment, Popal m'a dit, quand je lui disais, mais tu comprends, c'est quand même un peu emmerdant, il me regarde pas dans les yeux, et Popal m'a dit, mais ça fait 30 ans qu'il regarde pas son père dans les yeux. Donc il faut s'habituer à ce que ça change. Et de même,
il ne contredit pas non plus, a priori. Et donc, non plus, il n'est pas autorisé culturellement.
Et il n'est pas culturellement autorisé à contredire. Alors, vous imaginez ce qui se passe quand on les produit devant trois juges français de 40 ans, dont deux femmes. Je suis très content qu'il y ait des femmes à la Cour du droit d'asile, naturellement, mais ils viennent d'un univers. Ils viennent d'un univers où vraiment, c'est presque impossible. Et puis, il y a aussi un autre phénomène qui est... leur but est d'obtenir l'asile. Et donc, il y a une espèce de phénomène de radio-réfugiés où ils entendent dire dans les parcs, dans les endroits où ils dorment la nuit, que la meilleure manière d'obtenir l'asile, c'est de raconter ce type d'histoire. Et tout d'un coup, on voit fleurir 14 histoires qui sont toujours la même. Comme s'il y avait une sorte d'écrivain anonyme génial, planqué Parc Villemain, et qui écrivait le truc tragique, avec attaque d'un convoi par des pachaïs qui parlent une langue que personne ne connaît, et des choses phénoménales. On dit ça, mais c'est un vrai roman, c'est superbe, quelle belle histoire, voilà, un truc sérieux.
Et puis
à la 12e fois, on se rend compte qu'en effet, il y a un type tout seul, Parc Villemain, qui a composé histoire des autres. Et ça, c'est assez extraordinaire.
Voilà. Et d'où la difficulté de rétablir.
Et Popal est quelqu'un de fantastique parce qu'avec beaucoup de gentillesse et de délicatesse, il parvient à expliquer qu'il vaudrait mieux dire la vérité.
On n'a pas dit une chose qui est importante, on l'a un peu évoqué dans votre livre, François Sureau, c'est que tout cela est dans le filigrane de ce que vous appelez une sorte d'époque d'avant-guerre qui sont les années 80, où en même temps, au fond, rattrapé par cette histoire d'Ibarretegui, vous viviez à l'époque quoi, dans l'insouciance des années 80, où on sortait en boîte, où la vie paraissait facile, belle et pleine d'avenir.
Ah oui, non, c'est une époque alors absolument. C'est une époque très très étrange quand même, les années 80. C'est une époque disparue parce que comment dire, on était pressé d'évacuer toutes les choses qui nous avaient emmerdés au cours des années d'avant. Le gaullisme, les trotskistes, la pensée, le structuralisme,
les origines,
machin, les origines. On était pressé d'évacuer absolument tout ça, sans prévoir que tout ça aller rentrer par la fenêtre 20 ans après d'une manière tout à fait différente. C'était tout à fait étonnant. Et puis il y avait ce côté Jacques Vabre. Vous n'avez pas trouvé pour moi, ça reste le.
Le quoi ?
Pam padam, pam, pam padam. Oui, quoi ?
Esto es para ti, mamita !
Que le gringo que vous êtes la chante, hein, vous la chantez ?
Oui, mais alors pour moi, je dois dire que le tube de cette époque reste quand même l'immense Nuit brésilienne en plein Paris de Christophe Laurent. Ah. Vous ne savez pas ça ?
On va vous la trouver pour la fin de l'émission. À côté de vous, Jérôme Garcin, bien sûr que vous aurez reconnu le patron du Nouvel Observateur. Bonjour Jérôme Garcin.
Bonjour.
Avec Sandrine Trainer, directrice adjointe de France Culture, bonjour.
Bonjour.
Dites, vous venez nous vanter les bienfaits de la sélection France Culture, Nouvel Observateur, de la sélection de la rentrée littéraire 2013. Je n'y vois pas le François Sureau, c'est un oubli.
Mais non, c'est pas un oubli, absolument pas. Non, c'est pas un oubli, nous avons beaucoup aimé. Et Jérôme, d'ailleurs, c'était dans le Nouvel Observateur de la semaine dernière.
Cette liste, c'est la deuxième fois qu'on fait ça en collaboration avec France Culture. C'est un drame annuel, parce que franchement, c'est très bien de jouer au jeu auquel on va se livrer dans quelques instants, mais 10 titres français et étrangers sur près de 600-650 romans, oui. c'est même pas possible. Moi, si vous saviez le nombre de livres formidables que j'ai lus cet été et qui ne se retrouvent pas dans cette liste, c'est le choix de Sophie à chaque ligne. Bref, cela dit, moi je suis très épaté par le livre de François Sureau, notamment du point de vue littéraire, vous n'avez pas parlé, mais je trouve que réussir en si peu de pages à faire tenir des questions aussi importantes que le remords dont il parlait, ou la faute, ou la justice, ce sur quoi d'autres romanciers de la rentrée auraient fait au minimum 1200 pages, est pour moi une véritable réussite littéraire. Déjà ça, je voulais le signaler. Et puis sur le fond, c'est vrai qu'on se rend compte que c'est une question qui, même si elle est très datée, année Jacques Vabre, elle reste malgré tout d'une incroyable actualité.
Alors votre sélection, Sandrine, Jérôme Garcin, Sandrine Trainer.
Donc comme chacun le l'aura lu un peu partout, entendu. C'est une rentrée qui est un peu moins abondante en titres que les années précédentes, mais ça reste quand même une rentrée extrêmement importante avec quelques 550 romans qui paraissent là. Alors on dit que c'est moins et en même temps il y a largement de quoi faire, et donc il y a largement de quoi faire pour les uns et les autres, journalistes du Nouvel Observateur, productrices, producteurs de France Culture, d'essayer d'aider l'auditeur, le lecteur à se frayer un chemin dans les librairies. Alors, littérature française, Jérôme.
En sachant que c'est une liste qui, avec ses 10 titres, offre, je dirais, un automne et un hiver idéal. Il y a tout. À la fois, il y a des récits, il y a des romans, il y a du très lointain, il y a du très proche. Alors, on va aller vite.
Il faut les donner.
Littérature française.
Je commence avec La Consécration, évidemment, de Jean-Philippe Toussaint. Pourquoi La Consécration ? Parce que, nu, là encore, un roman relativement bref, c'est la fin de la tétralogie amoureuse de Jean-Philippe Toussaint chez Minuit. On s'est tous attachés à Marie, à l'incroyable Marie, et à son narrateur. Et là, je trouve que c'est une apothéose avec un défilé en robe de miel à Tokyo et un incendie d'une chocolaterie sur l'île d'Elbe qui mérite rien que ça le détour.
Alors de l'île d'Elbe, nous allons filer vers le détroit d'Ormuz, quelque part entre le golfe Persique et le golfe d'Oman. Et c'est pour moi évidemment Ormuz de Jean Rollin aux éditions POL, comment transformer un motif géographique et stratégique en version romanesque.
Vous allez aimer ce bouquin.
Oui, c'est aussi un livre d'actualité.
Je trouve que Jean Rollin est un des plus grands écrivains.
Il y a une visite d'un salon d'armement à Doha, qui montre d'ailleurs que là-bas c'est digne des salons du livre en France. Il y en a autant, et c'est assez formidable.
Voilà.
Moi j'ajoute un livre français qui est un récit-roman, c'est Le Intérieur de Thomas Clair. Réussir à faire près de 400 pages sur 150 mètres carrés d'un petit appartement parisien, avec chaque objet.
Ça va à la Pérec, c'est dans la lignée de...
Ça va du rouleau de papier toilette à une œuvre d'art conservée. Pour moi, c'est l'Iliade et les WC. Enfin, il y a vraiment tout en 400 pages.
Thomas Clair, d'un mot que l'on entend régulièrement chez Laurent Gomard au
Absolument,
rendez-vous à
19h. Chaque vendredi de 19h Sandrine, à 20h. Un western, oui, Céline formidable. Minard, probablement une des romancières les plus singulières qui se trouve aujourd'hui dans notre pays. Céline Minard qui signe chez Rivage « Faillir être flinguée ». C'est un vrai western avec tous les codes du western. Voilà, il faut y aller.
Voilà, il vous reste à nous dire, Jérôme Garcin.
On termine avec La Conjuration, voilà, aussi de Philippe Vassé chez Fayard, qui est aussi un livre qui appartient à un registre de la rentrée littéraire. Il y a beaucoup de personnages comme ça qui partent, qui quitte la société. C'est vrai du roman de Tristan Garcia, qu'on aurait pu mettre aussi dans la sélection. C'est vrai du roman de Yannick Enel également. Enfin, bref, c'est un thème qu'on retrouve dans ce très beau livre, je trouve, de Philippe Vassé, La Conjuration.
Voilà, donc Nu de Jean-Philippe Toussaint, Intérieur de Thomas Clair, Faillir et être flingué de Céline Minard, Ormuz, Jean Rollin, La Conjuration, Philippe Vassé. Pour les éditeurs, on ira sur le site franceculture.fr où on lira le Nouvel Obs. Et puis, il nous faut évoquer tout de même la sélection étrangère.
Non, mais non seulement il nous faut, mais on y tient tout particulièrement parce qu'il y a en cette rentrée,
c'est là que ça se passe.
Une profusion de grands textes de littérature étrangère qui est tout à fait saisissante, en particulier chez les anglo-saxons. Alors on va les citer. Jérôme, je vous laisse commencer.
Il y a Canada de Richard Ford qui est à mon avis un livre incontournable de cette rentrée. Une histoire qui commence par un hold-up perpétré par des parents. C'est formidable et ça se termine au Canada. C'est à la fois un thriller, un roman d'aventure et puis un très très beau livre, je trouve, sur l'héritage, sur la filiation.
Une passion collective et très personnelle aussi pour le très beau roman de Louise Erdrich et Albin Michel qui s'intitule Dans le silence du vent et qui est une formidable variation autour de la justice à tous égards. Ça se passe dans une réserve indienne. J'invite vraiment tout le monde à aller y voir.
Un Kudzi et
une enfance de Jésus au seuil. Grand auteur, vous savez, sud-africain, prix Nobel de littérature. Un livre assez étrange, il faut le dire. Déroutant parce que c'est un lieu qui n'est pas nommé, arrive sur une terre inconnue, un adulte et un enfant qui n'est pas son fils. Et qui ont tout oublié, qui vont devoir se reconstruire. C'est à la fois très poétique, très beau, très mystérieux. Un nouveau grand livre de Coetzee. Bon,
alors, est-ce que le nouveau Richard Powers, moi j'avais adoré le temps où nous chantions, le livre sublime, est-ce que Le dilemme du prisonnier de Richard Powers au Cherche Midi est aussi bien que Ce temps où nous chantions?
Mais oui, ça poursuit. Alors, Le temps où nous chantions, ça a été un choc pour nous tous. Ça s'est prolongé avec d'autres grands livres, comme La chambre aux échos, je crois, qui était aussi un des bons livre de Powers, et ça se poursuit, Marc. évidemment, oui, oui, ça se poursuit.
Et on finit avec l'esprit d'hiver de Laura Kashishke qui paraît chez Bourgois. Très, très beau livre, très angoissant, il faut le dire. C'est un peu entre Stephen King et Bergman. Et c'est, à mon avis, un des auteurs phares de la rentrée littéraire étrangère cette année.
Alors, on retrouve tout cela, bien sûr, dans les programmes de France Culture. J'imagine dans les pages du Nouvel Observateur.
Vous imaginez bien.
Ouais. J'imagine bien.
Et dans les programmes de France Culture dès ce soir, alors, chez Laurent Gomard, au rendez-vous de 19
à 20h. Au rendez-vous, vous dépliez davantage encore la liste.
Oui, on déplie, on reçoit les auteurs avec Didier Jacob du Nouvel Observateur.
Merci Jérôme Garcin de nous avoir rejoint ce matin au Matin de France Culture et Sandrine Trainer. Vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Donc l'Ormuz.
Je vais commencer par Ormuz. Et puis moi, j'ai jamais. J'avoue mon incompétence, mais j'ai jamais entendu parler. J'adore le titre. Qu'est-ce que c'est, Le temps où nous chantions, c'est ça?
Oui, oui, ah, ça c'est.
C'est bien.
C'est une grande sublime. Saga américaine. Ah, oui. Formidable. Ah, non,
c'est plus que bien, François Assuré.
Ah, oui. je vais trouver ça. C'est un très grand livre.
Vous ne lâchez plus. Vous ne faites plus rien quand une fois que vous lisez ça en œuvre.